Il est 16h sur France Culture. Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Vous êtes à l'écoute des conférences du Carême protestant. Comme chaque année, ces conférences vous accompagnent pendant 6 semaines jusqu'à Pâques. Un temps de réflexion, un temps de retour à l'essentiel, un temps pour sortir de nos habitudes et de notre routine. Cette année, nous passons ce temps de Carême avec le pasteur Bruno Godelet de l'Église protestante unie de France à Neuilly-sur-Seine. Le pasteur Godelet nous invite à cheminer avec 6 personnages bibliques. Ils sont touchés dans leur existence par leur rencontre avec Jésus. Bruno Godelet nous propose une mise en récit théâtral de ces figures de la Bible. Nous entrons dans le fort intérieur de ces femmes et de ces hommes. Nous comprenons mieux leur ancrage social et théologique. Notre culture, notre langage, nos imaginaires sont tapissés de références aux personnages bibliques. La littérature, l'histoire, les arts renvoient constamment aux héros des deux testaments et à leurs aventures. L'analyse historique et littéraire est indispensable pour comprendre et interpréter les textes. Ces écrits nous parlent de ces héros ou des hauts faits de Dieu. Cependant, ce n'est pas la seule façon de comprendre la Bible. La lecture narrative a acquis ses lettres de noblesse depuis 40 ans. Elle retrouve la saveur des figures bibliques et des récits. Plutôt que d'opposer les deux méthodes, il est bien de les combiner. C'est le libre cours que suivent nos émissions de Carême cette année. Elles donnent la parole à des figures narratives des évangiles. Aujourd'hui, nous vous parlons du témoignage de Paul.
Je suis né en Cilicie, dans l'actuelle Turquie. Mon père, un saint homme, y exerçait le métier de fabricant de tentes. De famille juive, ancrée dans la plus pure tradition pharisienne, ma famille et moi-même possédions toutefois la citoyenneté romaine. M'avez-vous reconnu ? Je suis Saul de Tarse, devenu Paul, l'apôtre des gentils. Certes, par la volonté de celui qui m'a mis à part, dès le sein de ma mère, afin d'annoncer l'évangile de la grâce. C'est ce que je vais vous relater aujourd'hui. Moi, Saul de Tarse, devenu Paulus le Petit, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église du Christ. Tout jeune, mon père m'avait confié entre les mains du grand rabbi Gamaliel à Jérusalem, afin que je devienne moi-même docteur de la loi. Mon zèle pour les traditions de mes pères était sans bornes. J'étais si fier d'être israélite, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, circoncis le 8e jour, pharisien. Aussi détestais-je cette secte pernicieuse des chrétiens qui semblait blasphémer horriblement. L'un d'entre eux, nommé Étienne, n'hésitait pas à haranguer les foules de Jérusalem. Nous décidâmes alors de le prendre à ses propres mots, en public. Cet hérétique était cependant très habile et il semblait d'autant plus dangereux qu'il émanait de lui une sorte de sagesse sans aucune malice. Nous le conduisîmes devant le souverain prêtre, et il se lança dans un discours fleuve, revisitant notre histoire. Les choses se gâtèrent pour lui lorsqu'il nous traita d'hommes au cou raide. De rage, nous le poussâmes hors des murs pour une lapidation en règle. Évidemment, comme je n'étais encore qu'un jeune homme, on m'ordonna de garder les affaires des vengeurs de Dieu. Je me promis cependant d'apporter plus tard ma contribution et mon zèle pour l'extermination de cette doctrine. Le temps passa un peu, mais je respirais toujours la menace contre les chrétiens. J'obtins finalement du souverain sacrificateur, la plus haute autorité de Jérusalem, l'appui de faire jeter en prison ceux qui professaient la foi des hérétiques. Je commençai par une persécution si intense dans la ville sainte que la majeure partie des chrétiens s'enfuit. Je fulminai contre ces gens pour lesquels je n'éprouvais aucune pitié. Pour moi, seul comptait l'honneur de Dieu et le maintien des traditions de mes pères. Moi, Saul de Tarse, zélateur affirmé de la loi de Moïse, et grand pourfendeur de l'hérésie chrétienne, j'ai essayé, à chaque fois que cela fut possible, de convaincre ceux qui se disaient chrétiens de renoncer à cette voie. J'ai interrogé des dizaines d'entre eux pour connaître précisément jusqu'où allait leur démence. Tous considéraient unanimement que Jésus de Nazareth était le Messie promis par Dieu. Les uns affirmaient qu'il marchait avec la puissance de l'Éternel, comme l'attestaient les guérisons qu'il avait accomplies. « Vous adorez donc un guérisseur, peut-être un sorcier, leur rétorquai-je dans ma hargne ?» D'autres expliquaient que ses discours et ses paraboles témoignaient d'une sagesse hors du commun. « Son enseignement est d'une profondeur magistrale, disait-il, et sa connaissance des Écritures est sans égale. » « Un culte, fulminai-je. Si vous aviez été élève de Gamaliel, vous auriez vu un vrai sage et un véritable savant des Écritures. » D'autres encore avaient été frappés par la bonté du Nazaréen. « Il a su affermir l'espérance de tant de personnes. On a vu des gens de mauvaise voie, des brigands, des filles perdues, changer de vie et retrouver leur dignité. Est-ce une raison pour en faire un prophète ?» « Ou une idole » critiquai-je systématiquement. Mais le pire de tous ces témoignages, celui qui revenait sans cesse et qui me plongeait dans la plus totale colère, concernait la croyance en la résurrection de Jésus. « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, me disait-on. Il a été enseveli, puis il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Il s'est fait voir à ses disciples, d'abord à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Enfin, il a été vu par Jacques, son frère, puis par tous les apôtres. Mensonge, m'indignai-je. Cela ne se peut pas. Ses disciples sont des menteurs. Aucun défunt ne revient dans son corps après sa mort. La résurrection est une espérance pour ceux qui seront reconnus justes lors du jugement dernier. « C'est nous, les pharisiens, qui avons forgé les premiers cette espérance. » Ah, chers amis, j'étais tellement révolté contre ces chrétiens et leurs croyances qu'il me semblait urgent d'enrayer cette peste en les pourchassant partout où ils pouvaient transmettre leurs hérésies. C'est pourquoi je demandais au souverain prêtre des lettres pour me recommander auprès des synagogues de Damas, en Syrie, afin d'y faire arrêter, avec le concours des autorités locales, les hommes et les femmes qui suivaient cette voie. C'est en me rendant à Damas que tout a basculé pour moi. Comme je l'ai dit, je respirais la menace et la persécution contre ceux qui se disaient chrétiens. Or, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul ». « Pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il me dit, « Moi, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, « Que ferai-je, Seigneur ? » Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce qui t'est ordonné de faire. » Comme je ne voyais plus rien, ceux qui étaient avec moi me guidèrent, et j'arrivai aveugle à Damas. Après 3 longs jours passés à ruminer, un certain Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » À l'heure même, je recouvrai la vue. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras mon témoin devant tous les hommes. Tu parleras de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et battre ceux qui croient en toi. Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, je les approuvais, et je gardais les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Alors il me dit « Va, car je t'enverrai au loin, vers les païens. » Voilà, mes amis, c'est ainsi que je suis devenu l'apôtre des gentils. La première grande difficulté à laquelle j'ai été confronté fut celle de la séparation radicale entre les Hébreux et les gentils en raison de la loi de Moïse. Cette loi distingue en effet entre le pur et l'impur et réclame que soient retranchés du peuple ceux qui ignorent ou ne suivent pas ses préceptes et ses ordonnances. C'est de là que vient ce véritable mur de séparation qui s'est établi au fil du temps entre les disciples de Moïse et les païens. Comprenez bien, ce n'est nullement par quelque orgueil de race ou par mépris des gentils que les disciples de Moïse se tiennent à l'écart d'eux. Leur résolution est au contraire dictée par le plus noble des scrupules religieux, celui d'être agréable et fidèle à l'Éternel. Pour avoir moi-même été un zélateur de la loi, je sais d'expérience la profondeur de cette résolution. Il faut comprendre ce qu'est la force du sentiment religieux et ne pas juger superficiellement. Le vœu de mon cœur et ma prière pour eux a toujours été qu'ils soient sauvés. Si Christ ne m'avait pas arrêté en chemin, j'aurais d'ailleurs persévéré moi aussi dans la voie des scribes et des pharisiens. Mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, j'ai été conduit à relire les Écritures à la lumière du Christ crucifié et ressuscité. Là, j'ai découvert que la lecture traditionnelle qu'on m'avait inculquée n'était pas la seule façon de comprendre et d'interpréter les textes. Souvent, il suffit de changer d'optique, de remettre en cause nos préjugés et nos présuppositions pour que le sens des passages ou de l'ensemble soit transfiguré. C'est en relisant les textes à la lumière du Christ crucifié et déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts que j'ai compris que la loi est certes sainte et que le commandement est juste et bon, mais que le rôle de la loi consiste à éclairer et à dénoncer nos fautes, non à nous arracher à cette nature pécheresse qui nous tient sous sa coupe. Il m'est apparu, en somme, que la loi est comparable à un pédagogue qui instruit les jeunes enfants. Elle nous a été donnée pour éduquer nos consciences. Mais ce n'est pas du pédagogue que vient l'héritage, c'est du Père. L'héritage, c'est la vie éternelle que Dieu nous promet et qu'il nous donne par grâce et non au moyen de la loi. Ce n'est donc pas par la pratique de la loi, mais par la foi au Dieu qui fait grâce, qu'on se réconcilie avec lui et qu'on existe devant lui comme ses fils et ses filles. Car il n'y a plus de distinction de genre, de condition ou de peuple en Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Or, en lui, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Avec lui, le mur de séparation entre Hébreux et gentils est abrogé. Évidemment, faire admettre aux Hébreux devenus chrétiens que les païens ne sont plus des étrangers ni des gens de passage, mais les concitoyens des saints, les membres de la famille de Dieu, est une chose. Parvenir à faire vivre les uns et les autres ensemble, au sein d'une même communauté locale, voilà qui fut autrement compliqué. Et c'est ici que j'ai été confronté à la seconde grande difficulté de mener à bien ma vocation d'apôtre des païens. Puisque Christ a réconcilié juifs et grecs, esclaves et libres, hommes et femmes, et que tous les baptisés sont un en lui, il va de soi que l'Église forme un seul corps, et que chaque membre de ce corps a non seulement sa place, mais également son utilité. Toutefois, ce n'est pas seulement au sens de corps ou de corporation sociale qu'il faut entendre que l'Église est le corps du Christ, mais également au sens spirituel, comme nous le révèle la proclamation de Pâques. Beaucoup de gens s'imaginent que nous nous représentons la résurrection de Jésus au matin de Pâques de façon matérialiste. C'était un peu mon cas lorsque je prenais à la lettre le témoignage des premiers chrétiens que je faisais arrêter. Et c'était aussi ainsi que certains frères et sœurs de Corinthe concevaient l'espérance de la résurrection des morts. C'est pourquoi je pris le parti d'expliquer à ces mêmes Corinthiens ce qu'il fallait entendre par résurrection des morts, et ce dans la droite ligne de ce que Jésus avait enseigné lui-même. Les gens de Corinthe faisaient en effet la même erreur que les Sadducéens du temps de Jésus. Ils matérialisaient et mondanisaient l'espérance de la résurrection. Christ est devenu un esprit vivifiant, leur ai-je alors écrit. Et j'ai ajouté, la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. La résurrection doit être pensée comme la transfiguration ou la métamorphose de notre être terrestre, afin que nous devenions comme Christ des esprits vivifiants. Christ est le premier-né d'entre les morts et la tête de l'Église qui est son corps, ai-je encore ajouté dans ma lettre. Cela signifie, pour parler très clairement, que l'Église est le corps terrestre du Christ Jésus. Ce n'est donc pas dans un corps de chair que le Seigneur a manifesté sa résurrection, mais au travers de l'Église, qui est à la fois son corps terrestre et à la fois le corps mystique qu'il habite et au travers duquel il poursuit sa mission évangélisatrice dans le monde. Les baptisés sont en quelque sorte les bras, les jambes, le cœur, mais aussi la bouche du Christ sur la terre. C'est sur la base de la foi en la résurrection, à laquelle les disciples de Jésus ont rendu témoignage, et qu'ils ont annoncé comme réalisé en Christ, que l'Église a pris corps au matin de Pâques. Évidemment, ce n'est pas par volonté humaine que l'Église a pris corps, mais c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui incorpore en effet les baptisés au corps du Christ. Lui qui nous donne, dès à présent, une vie nouvelle, régénérée. Lui encore qui intercède en nous par des soupirs inexprimables et nous fait crier « Abba, Père », rendant par là témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui rassemble les membres du corps du Christ dans la diversité de leurs charismes et de leurs fonctions. Il y a ainsi diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Que nous soyons juifs, grecs, esclaves, libres, hommes, femmes, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, abreuvé tout entier par l'Esprit de Dieu. Toute ma vie d'apôtre, je me suis battu pour que les frères et les sœurs des assemblées chrétiennes que j'ai fondées acceptent et vivent cette unité spirituelle qui ne distingue plus entre les Hébreux et les Gentils, entre conditions sociales ou entre les sexes. Il m'a fallu faire face aux gens de la maison de Jacques, le frère du Seigneur, qui refusaient d'inclure les gentils dans l'Église, tant que ceux-ci ne seraient pas circoncis. J'ai dû aussi affronter les divisions locales qui émergeaient des différentes tendances et partis qui se constituaient ici ou là, comme à Corinthe. Sans compter les faux apôtres, les mauvais ouvriers qui s'infiltraient pour détourner les églises à leur profit. Lutte au dehors, crainte au dedans. 5 fois, j'ai reçu de mes anciens condisciples pharisiens 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, parmi ceux de ma nation, mais aussi parmi les païens. J'ai été en péril dans les villes, dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité, sans compter les soucis que me donnaient toutes les églises. Mais j'ai tenu bon, car je n'ai pas eu honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Apôtre des païens, je ne mens pas. J'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, et ce, bien qu'étant le moindre d'entre eux. Mais si Christ réconcilie le monde avec Dieu, et que l'Église, qui est son corps, participe à ce ministère de réconciliation, en annonçant son Évangile à toutes les nations, il est évident que les membres du corps du Christ doivent non seulement vivre chacun en homme et femme réconciliés avec Dieu, mais également apprendre à vivre ensemble en frères et sœurs réconciliés. C'est la raison pour laquelle je n'ai cessé d'enseigner dans mes lettres et dans mes voyages missionnaires que l'amour est bien supérieur à n'importe quel don spirituel. Évidemment, c'est de l'amour agapé, tel que l'enseigne le Christ Jésus dont je parlais, c'est-à-dire l'exercice de la bienveillance, de la compassion et de la charité. Pour décrire cette forme d'amour spécifique, j'ai écrit aux Corinthiens que l'agapé est patient, l'agapé est serviable, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. L'agapé ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'agapé pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'agapé ne succombe jamais. C'est par la prédication et l'enseignement de cette voie par excellence que j'ai pensé pouvoir résoudre et dépasser les 2 difficultés qui se dressaient en face de mon apostolat pour les gentils. Seul l'agapé, l'unique commandement du Christ à ses disciples, peut donner à ceux des Hébreux et des Grecs, des esclaves et des libres, des hommes et des femmes, de vivre ensemble comme des frères et sœurs, au sein d'assemblées chargées par le Christ Jésus lui-même de porter dans le monde son évangile et de poursuivre son ministère de réconciliation sur la terre. En somme, c'est la prédication de l'agapé qui fut la pointe et la clé de mon apostolat pour les païens. C'est par elle que l'Église corps du Christ peut vivre son unité et accomplir sa mission. Mes très chers frères et sœurs, le moment de nous séparer est venu. Rendons grâce à Dieu qui a le pouvoir de nous affermir selon mon évangile par la prédication du Christ Jésus, et ce, conformément à la révélation du mystère, tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques. À Dieu seul sage la gloire, par le Christ, pour les siècles des siècles. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous.
Ainsi s'achève cette 5e conférence du Carême protestant, aujourd'hui le témoignage de Paul. Merci à Bruno Godelet, pasteur de l'église protestante unie de France à Neuilly-sur-Seine, à la réalisation Thomas Jost, à la prise de son Alain Joubert. Le Carême protestant est coordonné par Brigitte Iselin, Antoine Sédoux et le pasteur Nathalie Chaumet. Présentation Olivier Betty pour le service radio de la Fédération protestante de France. Vous pouvez commander le texte d'aujourd'hui en écrivant à Carême Protestant, 27 rue de l'Annonciation, 75 016 Paris. Pour plus de renseignements, je vous invite à surfer sur carême-protestant.org. Dimanche prochain, la 6e et dernière conférence du Carême Protestant de cette année sera consacrée au témoignage de Jésus. À suivre sur France Culture, le Carême catholique, en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonne fin de journée à tous et à chacun.